vous dites vous être converti à l'âge de 25 ans. Comment cela s'est-il produit?
Ça, alors là, je ne peux absolument pas répondre à cette question comme ça. Il faudrait déjà vous expliquer comment j'ai eu la foi, sans savoir ce que ça voulait dire. La foi qu'on a dans un extraordinairement bon enseignement de primaire, quoi. Jusqu'à mon âge de 10 ans, la foi du catéchisme de 1925-1930. Et je dis extraordinairement bon parce que dans cette époque-là, c'était facilement janséniste, moralisateur, traumatisant, et ça n'a pas été du tout. On m'a parlé pratiquement que de la miséricorde et de l'évangile. Et puis naturellement un peu la liturgie.
Non, ce sont vos parents, c'est votre famille?
Non, ce ne sont pas tellement mes parents, mais le curé de la paroisse. Le curé de la paroisse et mon instituteur. Un instituteur comme on en fait, je ne pense pas beaucoup maintenant. Instituteur très catholique et très... Il faudrait que me reviennent à l'esprit des souvenirs sur ce qui a pu m'être dit, mais par exemple une phrase que j'ai entendue tout de même avant mon âge de 10 ans, Judas a commis une faute plus grave en désespérant qu'en trahissant Jésus-Christ. Ça, j'ai jamais oublié. Il y a des choses comme ça. Ça, c'est quand même de l'enseignement chrétien de haut niveau et qui m'est resté dans mon subconscient. Je n'ai jamais évacué ça, je n'ai jamais perdu ça. Et si je devais un jour, quand j'ai commencé à perdre la foi vers l'âge de 12-13 ans, précisément à cause du problème du mal, surtout. Et puis un autre problème, bien plus difficile à expliquer en 2 minutes, sur la transcendance de Dieu. Tu sais, Dieu, on s'en fait une image humaine, donc fausse. Et comment prier Dieu si on ne s'en fait pas une image humaine? Donc fausse. Donc comment prier? Donc je ne peux pas prier. Vous voyez, ça, il y a eu ça. Et puis il y a eu le problème du mal. Mais si je devais un jour, plus tard peut-être, et ça me paraissait complètement invraisemblable, impensable, revenir à une religion, elle aurait cette musique que Judas a péché plus gravement en désespérant qu'en trahissant Jésus-Christ. Voilà, je vous donne. Alors comment ça m'est revenu? Alors là. Là, vous savez...
C'est pas comme Frossard, vous n'avez pas eu une vision béatifique ou...
Il n'a pas eu une vision béatifique.
Non, mais enfin, je...
Non, c'est pas... Non, il y a eu Dostoïevski. Dostoïevski, il n'y a pas eu d'auteur catholique. Tous les auteurs catholiques ne m'intéressaient pas du tout. Claudel me sortait, alors je n'insiste pas. Peggy, je ne connaissais pas. Les prêtres, j'étais tranquillement conscient de les avoir largement dépassés, d'être beaucoup plus intelligent qu'eux. Et par conséquent, tout ça, c'était du néant pour moi. L'église, c'était la barbe, c'était zéro, mais sans aucune agressivité de ma part. J'étais tranquillement certain qu'il n'avait rien à m'apporter. Rien. Donc les catholiques ne m'ont rien apporté dans cette période, consciemment du moins, dans cette période de 15 à 25 ans à peu près. Sauf peut-être... des restes liturgiques qui traînaient de temps en temps, une visite à une trappe qui m'a laissé un souvenir un peu terrorisé, mais fasciné, quelque chose comme ça, mais voilà. Alors Dostoïevski, alors par contre, oui, c'est lui qui m'a montré l'évangile, qui m'a fait reprendre le chemin de l'évangile. Seulement comme je ne savais pas du tout ce que c'était que l'orthodoxie, la religion catholique, la religion protestante, ça n'avait pas d'importance. Ça avait si peu d'importance. Si, tout de même, alors, ce qui a été déterminant, c'est qu'un beau jour, à la suite de circonstances personnelles que j'ai sûrement pas le temps de vous raconter, je suis sorti de chez ma grand-mère, je le rappelle, avec une scène épouvantable qui a duré 2 heures, en Normandie, c'était pendant la guerre, en 1943. J'ai pris le train en disant ça ne peut plus durer. Ça a cessé d'être possible. Alors ça, cesser d'être possible, ça voulait dire de voir ma grand-mère, mais ça voulait dire aussi de vivre dans ce monde-là. Et comme j'étais très travaillé par un jeune dominicain qui a été resté dominicain 3 mois et puis qui avait perdu la foi, qui cultivait l'hérésie avec une sorte de délectation gidienne, enfin, mais qui m'avait fasciné sur les couvents, là encore, et j'ai pris le train en disant « j'entre au couvent ».
Comme ça?
Comme ça. J'ai dit « j'entre au couvent ». J'en ai assez de ce monde a cessé de me faire rire et pleurer. J'entre au couvent. je suis arrivé à la gare Saint-Lazare, mes amis m'attendaient, et je leur ai dit, j'entre au couvent. Et le même
garçon... Tout le monde a dû quand même étonné.
Alors, le même garçon qui m'avait parlé de monastique m'a dit, ben oui, il faudrait peut-être d'abord devenir catholique. Parce que, bon, officiellement, j'étais plus catholique. Et j'ai dit, ah oui, oui, ça c'est embêtant. Ça c'est embêtant. Mais alors, surtout, il y avait cette histoire de dogme, alors là. Mais Dostoïevski m'avait appris cette phrase que j'ai jamais oubliée, l'humilité est une force terrible. Ça, ça m'est... voilà, ça c'est comme l'histoire de Judas, ça m'était resté, l'humilité est une force terrible, et ça m'a fait faire son chemin, l'humilité...
Mais comment ça pouvait-il vous travailler cette phrase, puisque vous pensiez avoir dépassé tout le monde?
Voilà, mais si j'étais très orgueilleux, je le savais, mais je savais en même temps que l'humilité était une force terrible, qu'il n'y avait que ça d'intéressant dans la vie, ou bien être orgueilleux jusqu'à être le surhomme, le dominateur, Nietzsche, enfin... Bon, et ça j'avais dit non, ou bien alors être quelque chose que je pressentais, qui me paraissait plus extraordinaire que tout, mais que je n'étais pas. C'est-à-dire l'humilité. Et alors, pour la première fois, quand ils m'ont dit, ben, il faudrait devenir catholique, et que je me suis dit, ben, les dogmes, moi, j'y comprends rien, puis j'y crois pas, et j'ai fait jouer l'humilité. Je me suis dit, après tout, avec de l'humilité, ben, j'encaisserai tout. Je leur dirais, ne me demandez pas de comprendre, hein, mais je discuterai. Tout ce que vous voudrez pour que vous me laissiez entrer au couvent. Parce que je... Alors, mes trois idées clés, mes trois lumières, c'était une vie fraternelle, une vie réglée, parce que la mienne n'était pas du tout, et une vie de prière, ça je sentais. Mm-hmm. Voilà, c'est tout ce que j'ai su au moment de la conversion. C'est la lumière froissard, si vous voulez. Mm-hmm. C'est l'équivalent de... Voilà, c'est comme ça. Donc je suis arrivé là-dedans en n'y comprenant rien, en disant, vous me direz ce que vous voudrez, vous savez, égal, laissez-moi tranquille, laissez-moi prier, laissez-moi être fraternel, et donnez-moi un peu de sagesse de vie, parce que vraiment, le monde est fou, et je le suis encore largement aussi bien que le monde.
Mais pourquoi choisir l'ordre des Dominicains?
Ah ben, je n'ai pas choisi, ça alors là, j'ai voulu aller à la trappe, j'ai voulu aller chez Franciscain, on m'a dit, oh là là, la trappe, mon pauvre André, c'est Monseigneur Pézeril, qui à ce moment-là était l'abbé Pézeril, qui était de Saint-Lô, je suis né à Saint-Lô, je le connaissais comme ça, alors je suis allé le trouver, et je lui ai dit, voilà, j'entre au couvent, la contemplation, l'absolu, un bout de forêt, pour moi c'était ça, la vie hérémétique. Enfin,
il a trouvé ça sérieux.
Ah, il m'a dit, du complètement fou, mais enfin... pas d'histoire, tu n'es pas fait pour ça, et il m'a orienté chez les Dominicains, et alors au nom de cette fameuse humilité, j'y suis allé, sans rien savoir de ce que c'était. Puis alors quand j'ai entendu parler de transmettre aux autres cette espèce de lumière que j'avais tout de même pressentie à la suite de pas mal de tourments, tout de même, quand c'était une explosion, après 10 ans de souffrance, et je me cognais la tête contre tous les murs, et puis que le plafond s'ouvrait un petit peu, alors là oui, j'ai dit peut-être. Voilà, alors ça a commencé à m'intéresser, si vous voulez. Mais au début, moi, on m'aurait dit n'importe quoi. J'aurais obéi, comme il paraît que vous le faites.
Oui, il faut que j'obéisse.
Oui, oui, aussi. Ben voilà.
Mais qu'est-ce qui est essentiel pour vous dans cette vie, depuis votre conversion? Qu'est-ce que vous diriez être le noyau essentiel de votre vie?
Dieu qui me cherche, pas moi qui cherche Dieu.
Dieu qui vous cherche?
Oh oui.
Et de quelle façon ça se manifeste?
Ah bah dites donc.
Comment pouvez-vous me dire que c'est pas une illusion? Une soif.
Ah bah je n'en sais rien, je n'ai pas besoin de le savoir. Ce qui n'est pas une illusion, c'est que justement, je n'ai pas d'idée. Ce sont des réalités. Ces réalités, je peux perdre toutes mes idées, les réalités sont toujours là. Je peux les nommer autrement. Ça m'est presque égal. Mais la soif, c'est une réalité. Ça. On n'échappe pas à la soif. La terreur, c'est une réalité. L'horreur, c'est une réalité. Et l'espérance de la gloire et le pressentiment de la gloire, je ne peux pas dire que ce n'est pas une réalité. Il faut que j'y fasse, moi. Je ne peux pas y échapper. J'échappe pas. Je suis poursuivi. Je ne demanderais pas mieux de ne pas croire. D'une certaine manière, je serais plus tranquille. Bien des égards, je serais plus tranquille.
Vous êtes poursuivi parce que vous êtes vous ou parce qu'il est lui?
Oh ben, si je pouvais penser que c'est parce que c'est moi, je serais délivré, je serais plus poursuivi.
En d'autres termes, est-ce que moi je pourrais être poursuivi aussi?
Ben, vous êtes poursuivi. Ça, je le sais. Parce que je sais bien des choses tout en ne sachant rien.
Donc ce qui vous arrive à vous pourrait arriver à d'autres.
Ah, ça arrive aux autres d'une autre façon, sauf s'ils résistent. Parce que Dieu respecte la liberté, alors ça j'y crois. Et là, Dostoïevski aussi me l'a appris. Tout peut toujours être perdu ou sauvé, et si quelqu'un a le sens de la liberté, c'est Dostoïevski. Alors ça, tout dépend de notre liberté, et tout dépend de Dieu. Et je ne sais pas comment ça s'arrange. Alors là, ne me demandez surtout pas comment ça s'arrange, je n'en sais strictement rien. Je suis complètement noyé, écrasé, mais en même temps, je ne peux pas douter de ça.
Et vous ne cherchez pas d'explication?
Ah, je cherche tout le temps. Mais je sais que je ne trouverai pas, je suis ravi de ne pas trouver. Parce que moins je trouve, plus je suis sûr d'être dans le réel.
Donc c'est important pour vous de ne pas trouver, de ne pas être capable
de
mettre en équation.
C'est important de chercher sans trouver, parce que je me sens dans une forêt dont j'ai exploré 30 mètres. Et dans ces 30 mètres, j'ai découvert des quantités de choses dont je parle, dont nous parlons. Alors, je peux, pardonnez-moi l'expression, baratiner. Sur les 30 mètres. Mais le plus précieux de ce que j'ai découvert dans ces 30 mètres, c'est que la forêt a 3 km. Et si je pouvais explorer ces 3 km, et je dois essayer de les explorer, et je le fais encore maintenant, j'explore, et j'arriverai peut-être au bout de mes 3 km. Mais ma grande joie et mon grand écrasement, c'est que si j'arrive au bout des 3 km et à pouvoir dire des choses sur ces 3 km, j'expérimenterai que la forêt en a 3000. Et c'est ça qui est passionnant, c'est les 3000 que je n'aurai jamais. C'est pour ça que j'en serai toujours de moins en moins au fur et à mesure que j'en serai de plus en plus.
C'est donc dire que vous ne regrettez pas le geste que vous avez posé à...
Oh bon, alors il n'y a pas question, je recommencerai tout de suite si c'était à refaire. Ça, je ne peux pas faire autrement. Je ne peux pas faire autrement et en même temps, je suis libre.
Et en 1940 quelques, quand vous vous êtes converti...
43 et 44, oui.
L'Église était quand même très différente de ce qu'elle est aujourd'hui.
Ah oui, alors là, je souffre beaucoup de ce qui, des changements extérieurs de l'Église. Mais intérieurement, non, elle n'a pas changé. L'Église n'a pas changé depuis 2000 ans. Alors là, ça fait partie de ma foi. L'Église, c'est la Pentecôte. Ce n'est pas le pentecôtisme. Le pentecôtisme, il date de quelques années. Mais la Pentecôte, c'est une réalité, c'est justement ce qui est arrivé aux apôtres, qui est arrivé à Frossard, qui m'est arrivé, qui peut vous arriver si ça ne vous est pas arrivé, je vous le souhaite. L'Église, c'est la Pentecôte, ce n'est rien d'autre.
Et c'est ce qui est l'essentiel dans votre vie.
Dans la vie, dans la réalité tout court.
Mais ce que vous avez connu, vous, à partir d'une expérience personnelle, cela peut-il être transmis?
Ben, je passe ma vie à essayer. C'est transmis parce que, justement, c'est l'Esprit Saint. Alors là, l'Esprit Saint, qu'est-ce que c'est que l'Esprit Saint? Bon, ne m'en demandez pas trop. Hein. Mais enfin, c'est quelqu'un d'autre que moi qui transmet. Moi, je suis le robinet. Je tourne le robinet, l'eau ne vient pas. La plupart du temps, elle ne vient pas. Quand je parle à quelqu'un, je ne dis pas à vous. Mais enfin, elle vient presque jamais. Quoi. J'ai parlé pendant 5 ans pour faire le livre Adoration et désespoir à des jeunes. Ils m'ont posé une question en 5 ans. Le robinet, je tournais le robinet, l'eau ne passait pas. Et puis de temps en temps, elle vient, au moment où je m'y attends le moins, alors là, c'est l'explosion, c'est la gerbe, c'est fantastique.
Ouais. En d'autres termes, ce que je voulais vous demander, c'est que, quel est votre rôle par rapport à une expérience religieuse personnelle, n'est-ce pas, comme prédicateur, puisque vous appartenez à l'ordre des dominicains, à l'ordre prêcheur, n'est-ce pas? Est-ce que la foi est le résultat d'une expérience personnelle, ou si elle est, au contraire, l'objet d'une transmission?
Mais c'est une... L'objet d'une transmission.
Oui.
Mais c'est une expérience personnelle qui me renvoie à quelqu'un, si j'ose dire, mais ce quelqu'un est collectif, qui a une expérience, qui a la totalité de cette même expérience personnelle, qui s'appelle l'Église. C'est l'Église qui a l'expérience de Dieu. Et moi, je ne suis que je suis noyé là-dedans, dans l'expérience de Dieu des saints. J'ai pas oublié. J'aurais dû vous parler des saints. Ce sont les saints qui me maintiennent. Parce que les saints, je ne peux pas. Alors, je ne peux pas douter que les saints expérimentent Dieu. Je peux penser que moi, c'est une illusion. Mais Thérèse de l'Enfant Jésus, non, c'est pas une illusion. Ça, je sais qu'elle n'est pas dans l'illusion. Je sais que Thérèse d'Avila est dans le réel. Que tous les saints, que Charles de Foucault est dans le réel. Je sais, alors là, vous ne m'enlèverez pas ça. Moi, peut-être, si vous voulez, je suis peut-être fou. Mais ça m'est égal pourvu que eux le soient pas.
Et les saints sont-ils des personnages du passé ou sont-ils des
gens? Il y en a, j'en connais. Mère Thérèse, qu'ils ont pensé. Alors là, et puis il y en a d'autres.
Mais vous habitez Nancy. À Nancy, est-ce qu'il y a des saints?
Oui. Je ne les connais pas tous. Hein.
Mais qu'est-ce qui fait qu'on est un saint?
Qu'on est,
qu'on, parce que vous me parlez de Thérèse d'Avila, que je peux connaître par des œuvres, par du papier. Vous me parlez de Dostoïevski, qui est peut-être un saint, mais des gens que je vis, qui vivent et que je peux rencontrer.
Il y a une sœur de Thérèse de l'Enfant Jésus qui lui a dit un jour, qui a été un peu terrifiée parce qu'elle a entrevu quelque chose de Thérèse, et lui a dit, mais c'est terrible, c'est fantastique. C'est terrifiant, c'est pas terrifiant, c'est terrifiant, vous êtes possédé par Dieu comme certains sont possédés par le démon. Voilà ce que c'est qu'un saint, c'est la définition.
Quelqu'un qui est possédé par Dieu.
Comme on est possédé par le démon, c'est d'ailleurs en fait beaucoup plus, mais c'est du même ordre de voilà, j'y fasse. Seulement la liberté joue, le démon cherche à aliéner notre liberté et Dieu à lui demander des folies, quoi, à la tourmenter pour qu'elle devienne...
Ce que j'essaie de comprendre, Père Molinier, c'est que je sais qu'une partie de votre vie, enfin toute votre vie depuis votre conversion, a consisté à enseigner Dieu, à parler de Dieu, à prêcher.
J'ai essayé, oui. Ouais.
Alors je voudrais savoir, qu'est-ce que ça a exigé de vous? Quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées? Qu'est-ce que vous attendiez des gens qui vous écoutaient? Pourquoi vous avez vécu cette
vie? La principale difficulté, c'est de ne pas me décourager. Pas me décourager, mais non pas à cause de Dieu, à cause des hommes et à cause de moi. C'est parce que justement, les saints, ça va, mais les saints, il y en a malheureusement très peu. Et les saints expérimentent eux-mêmes d'une manière terrible. Voyez le curé d'Ars. Si le curé d'Ars avait pu résumer son expérience, d'ailleurs c'est pour ça qu'il voulait partir à la trappe, c'est « j'ai rien fait passer, rien n'est passé, j'ai tout raté ». Plus on est possédé par cette expérience, plus on a l'impression qu'on ne communique rien. Et le peu qu'on communique, ça paraît vraiment du... Et alors il faut résister à ce... Comme le curé d'Ars qui avait du mal, je me compare que du point de vue du découragement, à ce découragement permanent de se dire « mais tu n'y arrives pas, mon pauvre vieux, mais tu n'y arrives pas, puis c'est intransmissible, et puis tu trahis tout, tu es indigne de ce que tu dis, tu si on savait qui tu es, on y aurait de quoi prendre la fuite ». Et j'aimerais mieux que d'autres parlent à ma place. Oui, alors là, vraiment, du point de vue de la pureté du message, ça passerait pas mieux, d'ailleurs.
C'est que le message, finalement, est en lui-même un nœud sur lequel on
se... Le message respecte la liberté de gens qui, au départ, sont dans les ténèbres, comme je l'étais. Ça, c'est comme ça, oui, ça, c'est comme ça.
Est-ce que, comme dit Kierkegaard, le rôle du prédicateur n'est-il pas toujours de se convertir lui-même?
Ben bien sûr, mais même si je ne prêchais pas, il faudrait quand même que je me...
C'est toujours
la hantise de la conversion est permanente, il faut se convertir tous les jours et de plus en plus. Il faudrait se convertir de plus en plus. Si je pleure devant Saint Sacrement en priant, ce sera... demandant pardon parce que je me convertis de moins en moins. C'est ça, j'en ai conscience. Mais il faudrait se convertir de plus en plus, mais prédication ou pas. Devant une réalité comme celle-là, on peut pas la... Parce que j'ai une conscience aiguë de faire souffrir Dieu. Alors là, terrible.
De faire souffrir Dieu.
Ah oui, de faire souffrir Dieu.
Mais comment Dieu peut-il souffrir?
Ben voilà, je n'en sais rien du tout, et ça n'a aucune espèce d'importance, et ça m'est égal, je sais bien qu'il ne souffre pas. Mais je sais bien que, ou il ne m'aime pas, ou, d'une certaine manière, il souffre, mais que je ne connais pas. C'est des mots qui... Et c'est d'ailleurs parce qu'il n'y a pas de mots pour ça que Saint Paul dit qu'il n'y a qu'un seul mot, c'est la parole de la croix. La parole de la croix, ce n'est pas un mot, mais c'est tout de même une chose, c'est une réalité qui est proposée à la contemplation des fidèles et qui est la manière dont Dieu dit « je souffre ». Mais ça, c'est déjà une trahison de dire ça, parce que je sais bien que Dieu ne souffre pas, bon, ben d'accord. Seulement, on le sent passer quand même, je ne parle pas des... les saints le sentent passer, les pas saints comme moi le sentent passer aussi, parce qu'ils sentent qu'ils devraient l'être.
Est-ce que dans votre prédication, vous cherchez à rendre le christianisme attrayant?
Non. Je cherche... Je sais qu'il l'est. Je n'ai pas besoin de le rendre... Je cherche à ne pas trop le trahir. Car si je ne le trahissais pas du tout, il serait terriblement, à la fois terrifiant et attirant comme le Christ lui-même. Regardez l'effet produit par le Christ quand il passe. À la fois, il fascine et il repousse.
Oui, mais le Christ, je ne peux pas le rencontrer.
Oh, ben alors...
Il est mort, il est disparu, il n'est pas là. Et je vais peut-être me dire, moi aussi, si je l'avais connu, ma vie serait changée. Mais comment puis-je connaître le Christ?
Je n'ai pas discuté là-dessus. Je sais, moi, qu'il n'a pas disparu. Je dis simplement que les phénomènes produits par la rencontre du curé d'Ars, de Thérèse de l'Enfant Jésus, de Charles de Foucault, de Mère Teresa, sont exactement les mêmes que ceux qui, ayant plus grand quelquefois, car le Christ a dit lui-même, vous ferez des choses plus grandes que moi, c'est exactement les mêmes réalités, c'est le même bouleversement, c'est le même mystère qu'au temps du Christ. Voilà au moins ce que je peux vous affirmer.
C'est donc dire que pour vous, n'est-ce pas, il n'y a pas de foi sans cette communion des saints.
Non. Ah non. Sûrement pas. Enfin, il y en a une, si on veut.
Votre foi n'est pas donc une face à face.
Si vous voulez, il y a le volcan, il y a la lave qui sort, et puis elle descend très bas, elle se refroidit, ça devient alors la foi morte, ça existe aussi, mais enfin, ça n'a aucun intérêt, c'est pas ça qui... Il y a forcément des retombées. Il y a une foi, ce que j'aimerais, une foi retombée, si vous voulez.
Non, mais enfin, la foi dont vous me parlez, oui. C'est pas un face-à-face avec Dieu, c'est pas un seul-à-seul avec Dieu, c'est pas une expérience qui serait proprement intérieure, c'est une expérience qui se situe dans une collectivité.
C'est une expérience avec Dieu et avec Dieu seul, faite par... Enfin, écoutez, c'est exactement ce qui se passe chez les drogués. Ils se rejoignent pour expérimenter ensemble quelque chose d'ineffable. Qui évidemment est terriblement dangereux, qui se termine par l'enfer. Mais ça, c'est une autre histoire. Mais ils ont exactement l'attitude de la communion des saints. Ils ont envie, ils sont des prosélytes. Je voudrais t'apprendre à planer. Eh bien, j'ai envie d'apprendre. Je pressens que peut-être planer, je ne plane pas. Mais les saints planent, je me sens un petit peu relié avec eux, ils ont envie que je plane, et j'ai envie que d'autres planent aussi. On a envie de planer ensemble, de planer de l'Eucharistie, quoi.
Ce que vous cherchez donc à faire, c'est de mettre en contact des hommes d'aujourd'hui avec des personnages, des gens qui ont fait cette expérience de Dieu, qui s'appelle donc les saints.
Avec au-delà des personnages, avec ce que j'ose appeler, mais c'est une trahison, hein, cette espèce de drogue transcendante qui passe par l'Eucharistie et qui s'appelle l'eau vive et que le Christ dit, si tu savais qui est celui qui te demande à boire, c'est toi qui lui demanderais à boire, et cette eau vive, c'est la plus formidable des drogues, tout en n'étant pas une drogue, parce que la drogue détruit et que l'eau vive construit. Elle construit tout en rendant fou, et d'une la folie de la croix, qui est en même temps une paix qui dépasse tout ce qu'on peut imaginer. Car, oui, je vous dirais à la fois que je suis le plus, enfin, pas le plus tourmenté des hommes, quelle prétention, mais enfin, je suis aussi tourmenté que pas mal, je sens l'asile psychiatrique me frôler de temps en temps, et en même temps, je suis en paix.
Vous venez de dire une chose qui me frappe et que j'entends peu souvent. Vous avez dit qui passe par l'Eucharistie.
Oui.
Quelle place ça tient dans votre vie, l'Eucharistie?
Parce que c'est la réalité même du corps du Christ qui est exactement comme le pain. Et justement, le pain, ben c'est pas le pain, c'est ce qui passe à travers le pain, c'est-à-dire les calories, je sais pas, enfin tout cela, ce qui nourrit le sang, quoi. Et le cerveau. Et ce qui passe à travers l'eau, c'est quelque chose qui fait que c'est la vie même qui passe à travers l'eau. L'eau n'est pas vie. L'eau ne vit pas, et l'eau fait vivre. Le corps du Christ vit et fait vivre de cette vie de planeur. Enfin,
quand vous dites l'Eucharistie, vous parlez de la messe?
Les deux. Mais la messe sans communion, bah oui, là encore, bon, d'accord... C'est quand on comprend les choses que très loin ou qu'on a envie de rester, qu'on pressent que le spectacle est intense et qu'on n'a pas envie de passer à la casserole, quoi. Mais si on comprend ce que c'est, communier, c'est passer à la casserole.
La messe, c'est parce que vous êtes prêtre que vous y attachez tellement d'importance. Si vous étiez un simple chrétien.
Non, pas du tout. Je voudrais être comme Mère Teresa qui dit je ne peux rien faire pour les hommes si je n'ai pas l'Eucharistie et un prêtre pour dire la messe. Et elle ne s'installera pas à un endroit où il y a d'affreuses misères s'il n'y a pas un prêtre et l'Eucharistie, parce qu'elle dit moi je peux pas, j'ai plus rien, je suis comme un robinet qui n'a plus d'eau. Elle le dit, ça.
Donc l'important pour vous, c'est pas l'action collective, c'est pas l'évangélisation, si on peut dire, dans le sens d'une propagande, c'est autre chose.
En tant que manifestation d'une folie gratuite et qui est en même temps un chant pour rien, si, c'est magnifique l'action collective, mais c'est pas tellement le résultat qui compte que le chant par lequel Mère Teresa prolonge le lavement des pieds je dirais presque en adorant les plus pauvres d'entre les pauvres. Elle leur dit « Donnez-moi ma nourriture ». Et elle dit « Ils ont beaucoup plus à nous donner que nous à leur donner. C'est eux qui nous donnent. » Et elle a faim des pauvres comme de l'Eucharistie. Et les deux indissociablement pour elle. Mmh. Alors, je ne suis pas comme ça, mais disons, je comprends dans mes tripes.
Mais tout à l'heure, vous me disiez le christianisme est attirant. Est-ce que vous pensez
que le
Christ est attirant?
Et les saints. Parce que les saints, c'est le Christ. Et l'Église. Parce que l'Église, c'est d'une autre façon que je n'ai pas le temps de développer le Christ.
Mais c'est aussi la communauté des pécheurs, l'Église.
Oh oui. Oh oui, c'est ça qui est d'ailleurs absolument fascinant. C'est que ce sont les pécheurs qui sont des saints. Et je vous l'ai dit, je me sens d'abord, définition, un pécheur. Et appel, un saint. Je suis travaillé, tourmenté, torturé, et bien heureusement torturé, et pacifié par la sainteté qui m'attaque comme l'eau vive attaque un crochet, un cœur de pierre, qui attaque le pécheur que je suis. Bien sûr.
Depuis un certain nombre d'années, surtout peut-être depuis les années 1930, on a beaucoup insisté sur le devoir du chrétien de transformer la société, de transformer la structure de la société.
Je suis tenté de dire que je m'en moque complètement, ce serait faux. Enfin, subjectivement, dans un premier cri, je dis je m'en moque. Puis j'ai lu Maritain et je comprends qu'on ne peut pas s'en moquer. Mais alors là, ça demanderait ce qu'on appelle des conférences spirituelles. Je ne peux pas en 5 minutes vous dire pourquoi je ne m'en moque pas tellement. Mais en un certain sens, en tout cas, ça dépasse. Et Maritain lui-même, en un sens, sait, il le dit, nous serons vaincus, c'est entendu, mais enfin, lui, agissons quand même.
Nous serons vaincus, c'est-à-dire que l'avenir du christianisme, c'est de ne pas avoir d'avenir. C'est ce que...
Ah, c'est d'avoir un avenir de gloire et non pas un avenir de... un indice économique ou démographique. C'est pas comme ça que le christianisme va grandir. C'est d'une manière bien plus mystérieuse.
Mais pour le prédicateur, pour le frère prêcheur que vous êtes, le fait que les églises se vident actuellement, est-ce que c'est quand même...
C'est une affreuse souffrance. Mais à travers cette souffrance... Il y a un cri qui est une source de paix et finalement de joie, parce que Dieu, à travers ça, comme à travers la croix du Christ, fait quelque chose que je ne comprends pas, mais qui est bien plus beau que si les églises étaient pleines.
Donc votre action n'est pas une action de marketing, si vous me permettez.
Ah ben ça, évidemment, c'est pas le... Si vous me proposiez ça, je vous dirais non. J'en veux pas. Si me dire faisons du marketing, je vous dirais excusez-moi.
Alors qu'est-ce que vous cherchez à faire?
Mais je ne cherche rien. Je fais ce que je peux. Dans une situation où je ne suis pas maître du tout des forces qui me travaillent et qui travaillent les hommes, j'essaie d'écouter Dieu et de faire ce qu'il me dit, ou ce qu'il me suggère, ou ce que je crois sentir. Je patauge. Je ne sais que patauger, lamentablement. Et c'est ça ma confiance. C'est que j'espère que Dieu a pitié de me voir patauger, qu'il fait quelque chose. Moi, ce que je fais, je patauge. Moi, bon, ça, c'est ma définition aussi, ça.
Père Molinier, je vous remercie. Donc, je sais pas.